Et c'est bien sûr l'heure du journal de la rédaction en direct de la maison de la radio. On retrouve Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour à toutes et à tous. La chasse aux locataires de HLM à vie. Le ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, dit vouloir obliger les bailleurs sociaux à libérer les logements occupés indûment par des ménages qui sont devenus trop riches pour en bénéficier. Il passe à côté du problème, réagit sur France Culture l'Union sociale pour l'habitat. Vous l'entendrez. Sur le logement, l'éducation, la santé ou la fonction publique, le gouvernement multiplie ces derniers jours les effets d'annonce. Au lancement d'une campagne des élections européennes à haut risque pour la majorité présidentielle, nous analysons cette communication frénétique avec Stéphane Robert. Nous verrons aussi avec Julie Paco que l'exécutif ne compte pas s'embarrasser de débats parlementaires pour fixer le mix énergétique français des prochaines années. Pas de loi finalement sur ce sujet pourtant sensible, mais de simples décrets gouvernementaux. Les Français ne doivent plus se rendre en Iran, Israël ou au Liban, consigne stricte lancée par le Quai d'Orsay et signe d'une menace qui n'en finit pas de monter, d'une escalade guerrière entre Téhéran et Tel Aviv. Les États-Unis sont également alarmiste. Nous ferons le point avec Christian Chesneau. Avec notre invitée Alice Ekman, nous parlerons des tensions cette fois en mer de Chine méridionale, autour de la Chine qui revendique une grande partie des zones maritimes et des îlots philippins, à tel point que Joe Biden rappelle à Pékin que toute attaque contre les Philippines engagera une réponse de l'armée américaine. Enfin, reportage plus près de chez nous à la cathédrale d'Évreux où, comme dans de nombreux monuments nationaux, on tente de tirer les leçons de l'incendie de Notre-Dame de Paris il y a 5 ans. Sur le constat d'une crise du logement en France, tout le monde semble d'accord. Sur celui d'une crise du logement social aussi, avec près de 2 millions de ménages à faible revenu qui espèrent en bénéficier mais qui restent sur liste d'attente et avec également des constructions de HLM qui sont au point mort. Alors, quelle réponse à cette crise ? Dans la presse ce matin, le ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, part en croisade contre ce qu'il appelle le logement social à vie. Comprenez, c'est 8% selon lui de locataires de HLM qui occupent des logements alors que leurs revenus ont augmenté au fil des années et qu'ils sont désormais trop riches pour y avoir droit. Le ministre, dans le projet de loi logement qu'il doit présenter fin mai, veut obliger les bailleurs sociaux à vérifier régulièrement les revenus de leurs locataires pour que les logements reviennent à ceux qui en ont vraiment besoin. Mais c'est une mauvaise réponse à la crise du logement social, selon Emmanuel Cosse. L'ancienne ministre du Logement préside désormais l'Union sociale pour le logement. Elle a dit ses réserves à Valentin Bertrand.
Il utilise des chiffres que je ne connais pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons l'obligation de demander à nos locataires tous les ans leur déclaration d'imposition, leur revenu à leur bailleur, et on examine s'ils ont toujours droit à être dans le logement social. S'il y a un petit dépassement, ils doivent payer un surloyer. Et si le dépassement est trop élevé, c'est régi par la loi, ils doivent sortir et quitter le lieu dans l'année qui suit. Donc, il faut faire attention à ces expressions parce qu'elles ne sont pas vraies. Il y a aujourd'hui, sur 5,6 millions de logements HLM, 80 000 ménages qui payent un surloyer. On nous demandera, semble-t-il, dans le nouveau texte de loi, de faire un rapport annuel, une synthèse de ces analyses envoyées au préfet. Nous, on n'y voit pas d'inconvénient. De toute façon, on contrôle les ressources tous les ans. Mais il faut faire attention aux mots, il n'y a pas de logement social à vie. Et sincèrement, le sujet aujourd'hui, c'est trouver du logement abordable pour tous les Français. Il y a actuellement 1,7 million de ménages qui ont des revenus inférieurs à 1 800 euros, qui attendent un logement social. On a une crise de l'immobilier sans précédent. On a fait une baisse forte de la production de logements HLM et de logements privés sans précédent. Donc c'est ça aujourd'hui l'urgence. Moi, ce que j'attends aujourd'hui, c'est plutôt un plan de mobilisation générale pour relancer la production de logements, notamment par le logement social, et surtout trouver des solutions à l'ensemble des ménages qui ont des revenus modestes, mais qui sont travailleurs, qui aujourd'hui n'arrivent pas à louer un seul logement.
Emmanuel Cosse de l'Union sociale du logement, jointe par Valentin Bertrand, qui nous dit donc qu'il ne faut pas céder au populisme sur des sujets comme celui de la crise du logement social. Comment dès lors interpréter cette frénésie de communication ces derniers jours du gouvernement qui multiplie les effets d'annonce, les déclarations d'intention politique sur des sujets comme l'assurance chômage, la santé, l'éducation nationale, la fonction publique, désormais donc le logement. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour.
À chaque fois les ministres, voire le chef du gouvernement ou même le président s'empare de ces sujets bien réels pour annoncer des mesures qui frappent les esprits, qui suscitent le débat, mais qui renvoient à des réformes qu'on ne va pas voir aboutir avant des mois.
Oui, par exemple, le projet de loi sur le logement évoqué ce matin par le ministre Guillaume Kasbarian. Il sera examiné en première lecture par le Sénat en juin prochain et à l'Assemblée peut-être au mois de juillet ou bien à l'automne après la pause estivale. Et c'est la même chose pour la troisième réforme de l'assurance chômage annoncée par Gabriel Attal ou avec la réforme de la fonction publique présentée en début de semaine par Stanislas Guérini. Le pouvoir exécutif veut montrer qu'il est dans l'action et surtout, explique le politologue Bruno Cotrès, professeur à Sciences Po, qu'il n'a pas abandonné son ambition réformatrice des origines.
Une volonté très claire de la part de l'exécutif de montrer qu'il bouscule des tabous français, entre guillemets, et de s'attaquer à ce que, au départ, était présenté comme des rentes de situation. C'est-à-dire les licenciements dans la fonction publique, le logement social à vie, les chômeurs qui touchent le chômage sans rechercher vraiment un emploi. Voilà. Et donc, il essaye de renouer avec le tout début du macronisme de 2016-2017.
Et selon Bruno Cotrès, il s'agit de renouer le lien avec l'électorat macroniste des origines, avec tous ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron en 2017 puis en 2022, afin de les inciter à voter à nouveau pour le camp présidentiel aux élections européennes du 9 juin prochain.
C'est tenter déjà d'assurer la place de numéro 2 des élections européennes, parce que je pense que l'exécutif, son problème, c'est plus d'assurer la place de numéro 2 que de passer devant Jordan Bardella. Je pense que ça, ils ont compris que c'était hors de leur portée. Mais d'assurer la place de numéro 2, il faut coûte que coûte montrer qu'on parle à ces fameuses classes moyennes qui trouvent qu'elles payent et qu'elles n'ont jamais accès à rien. Donc tout ceci, bien évidemment, dans la perspective de diminuer le plus possible l'écart entre la liste Bardella et celle de Valérie Ayer.
Actuellement, toutes les enquêtes d'opinion montrent un retard considérable des intentions de vote en faveur de la liste du camp présidentiel sur celle du Rassemblement National. On est à 13, 14, voire 15 points d'écart. Jordan Bardella est donné aux alentours des 30%. Valérie Ayer est tout juste au-dessus de 15%.
Merci Stéphane Robert. Et puis en ce jour de lancement du Salon du Livre de Paris, Rachida Dati, ministre de la Culture, dit vouloir lancer un grand plan pour redonner une place à la lecture chez les Français, les plus jeunes en particulier. Ça passe, selon la ministre, par l'ouverture de nouvelles librairies dans les quartiers populaires dont elles sont trop souvent absentes, au pied même des immeubles de logements sociaux. Une première expérimentation doit être lancée à Rieux-la-Pape, dans la banlieue lyonnaise. Le plan lecture veut aussi se décliner dans la France rurale avec des librairies ambulantes sur les pratiques culturelles en zone rurale. La culture sur les chemins de campagne, c'est le grand reportage de la rédaction signé Benoît Grossin et Annie Brault, à écouter ce soir à partir de 17h sur France Culture et sur l'appli Radio France. Le gouvernement, encore lui, il va décider seul du futur mix énergétique de la France. Le sujet qui doit fixer la part de nucléaire, de renouvelable dans notre consommation d'énergie d'ici 2035 devait faire l'objet d'une loi discutée donc par la représentation nationale, mais l'exécutif, par la voix du ministre de l'Énergie, Roland Lescure, annonce qu'il procédera par décret, sans débat parlementaire, donc, mais après une simple consultation publique. Bonjour Julie Paco.
Bonjour Camille.
L'exécutif dit agir ainsi par souci de rapidité et d'efficacité. Les ONG du secteur énergétique, elles, parlent d'une entrave aux principes démocratiques.
Effectivement, le gouvernement dit vouloir mettre fin à la guerre de religion qui divise les pro-nucléaires et les pro-renouvelables, d'après les mots du ministre Roland Lescure. La loi énergie climat se retrouve donc enterré et cela ne surprend guère Nicolas Nass, il est chargé de campagne transition énergétique chez Greenpeace France.
Cette loi, elle aurait dû être votée avant le 1er juillet 2023. Le gouvernement n'a fait que repousser l'échéance et là on est un peu voilà, au bouquet final avec finalement la décision de ne pas faire du tout de loi, ce qui est pour nous un signal démocratique extrêmement inquiétant. Là on a l'impression que le gouvernement veut imposer sa vision de la transition énergétique et donc va passer par décret plutôt que par la loi qui est une obligation légale.
Mais un débat aura bien lieu, assure Roland Lescure, par l'intermédiaire d'une consultation publique avant la publication d'un décret d'ici la fin de l'année qui définira donc le futur mix énergétique français d'ici à 2035. Sauf que le périmètre de cette consultation est beaucoup trop restreint, estime Yves Marignac, porte-parole de l'association Négawatt.
Il va engager la concertation sur une partie seulement de ce qui doit être débattu, qui est la partie plutôt à court terme, centrée sur la production d'énergie, et qui amène du coup à faire à la fois l'impasse sur les enjeux de consommation, qui devraient être la priorité d'action du gouvernement, et sur les questions de cohérence de cette stratégie à long terme.
Associations et ONG qui déplorent une nouvelle fois la vision court-termiste d'un gouvernement qui se concentre sur le nucléaire au détriment des énergies renouvelables et des efforts de sobriété dans l'objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.
Julie Paco, merci à vous. Après les États-Unis, c'est la France qui rehausse son niveau d'alerte sur les risques d'escalade militaire entre l'Iran et Israël. Le Quai d'Orsay recommande ce matin aux ressortissants français de s'abstenir impérativement de tout voyage en Iran, en Israël, dans les territoires palestiniens, mais aussi au Liban. Ça fait suite à ces menaces lancées en milieu de semaine par Téhéran et l'ayatollah Khamenei, qui promettaient de punir Israël pour la guerre à Gaza et pour l'attaque meurtrière du consulat iranien de Damas en Syrie. Reste à savoir, Christian Chéneau, si, comme semble le craindre, Washington et Paris, l'Iran pourrait s'en prendre directement à Israël.
Depuis sa création en 1979, la République islamique n'a jamais frappé directement l'État hébreu. Si elle le faisait aujourd'hui, ce serait une rupture de la posture militaire traditionnelle de Téhéran. Or, l'Iran sait parfaitement que déclencher des hostilités directes contre Israël pourrait lui coûter très cher et donc ne veut pas d'une guerre généralisée. Pour autant, les Iraniens pourraient se venger d'Israël, mais de façon calculée et au moment opportun pour eux. C'est le message qu'ils ont fait passer aux Américains via le sultanat d'Oman. L'Iran mettra en œuvre une réponse qui ne soit pas de nature à enclencher une escalade régionale. L'Iran pourrait sous-traiter sa riposte à ses alliés régionaux, le Hezbollah au Liban ou encore les rebelles Houthis au Yémen. Il y a enfin une dernière possibilité, celle de ne rien faire, au moins temporairement, et préférer laisser à l'État hébreu le mauvais rôle, celui d'être pointé du doigt par la communauté internationale pour le bilan humain effroyable de sa guerre dans la bande de Gaza.
Et dans la bande de Gaza, justement, merci Christian Chéneau. Le ministère de la Santé du Hamas remet à jour son bilan de l'offensive militaire israélienne. Il déplore désormais 33 634 morts palestiniens et 76 214 blessés en un peu plus de 6 mois de guerre. La séquence invitée de ce journal nous emmène aujourd'hui en Asie du Sud-Est pour ausculter les tensions grandissantes en mer de Chine méridionale, une mer délimitée par la Chine au nord, le Vietnam à l'ouest, l'Indonésie et la Malaisie au sud et les Philippines à l'est. Bonjour Alice Ekman.
Bonjour.
Vous êtes en charge des analyses sur l'Asie à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne. Merci à vous d'être avec nous ce midi. On est donc au lendemain d'une réunion trilatérale qui a eu lieu entre les présidents philippins, japonais et américains, Ferdinand Suharto, Fumio Kishida et Joe Biden. Ils ont dénoncé le comportement agressif et dangereux de la Chine dans la région. De quel comportement est-ce que l'on parle exactement ?
Alors, il parle spécifiquement des revendications chinoises en mer de Chine du Sud et des navires chinois et qui sont entrés, dans certains cas, en collision avec des navires philippins ces derniers mois et encore ces dernières semaines, allant parfois jusqu'à des collisions, même des véritables batailles avec l'utilisation de canaux à eau. Il n'y a pas eu de personnes décédées, mais il y a eu des blessés, notamment côté philippin. Et les tensions restent particulièrement vives aujourd'hui. Donc, les communiqués conjoints publié par les trois gouvernements suite à une rencontre qui est inédite entre les Philippines, les États-Unis et le Japon et très sévère vis-à-vis de la Chine par sa terminologie, mais il parle également des revendications chinoises au-delà de la mer de Chine méridionale, des revendications chinoises en mer de Chine orientale autour des îles Diaoyu Senkaku revendiquées par le Japon et par la Chine, mais aussi les tensions dans l'étroit de Taïwan. Donc c'est à la fois bien sûr, un document qui pointe les tensions en mer de Chine du Sud, mais c'est plus généralement un document qui vise à renforcer les partenariats de sécurité entre ces trois pays par rapport à une menace chinoise qu'ils perçoivent comme transrégionale.
Alors, pour essayer de resituer les enjeux de ces revendications chinoises dans la mer de Chine du Sud, et puis vous l'avez dit plus largement dans la région, quels sont-ils ces enjeux ? Est-ce qu'on parle d'enjeux de zones de pêche, de contrôle de voies de commerce maritime ou bien de gisements d'hydrocarbures ?
Oui, ben c'est par la mer de Chine méridionale que transite près de 30% du commerce maritime mondial. Cette mer représente aussi 12% de la pêche mondiale. Puis plus généralement, c'est une zone stratégique, compte tenu de sa localisation. Donc les revendications et tensions en mer de Chine du Sud opposent 7 États riverains. La Chine, les Philippines, Brunei, la Malaisie, l'Indonésie, le Vietnam, mais aussi, tout dépend comment on le catégorise, favorise Taïwan, mais c'est surtout dernièrement entre la Chine et les Philippines que les tensions sont vives, notamment depuis aussi l'arrivée du nouveau gouvernement philippin qui considère qu'il ne faut rien céder à la Chine. On se rappelle que les tensions entre la Chine et les Philippines sont déjà très vives depuis longtemps, mais notamment depuis 2013, c'est l'année durant laquelle Mani avait saisi la Cour permanente d'arbitrage de la Haye pour statuer sur le contentieux territorial qui l'oppose donc à Pékin en mer de Chine du Sud, suite à la polarisation par la Chine de plusieurs îlots dans l'archipel des Spratly. Et en 2016, ce tribunal avait jugé illégal les revendications chinoises, mais c'est une décision qui n'a jamais été acceptée par Pékin. Donc les sanctions sont très vives. Il faut bien comprendre qu'en toile de fond, on a aussi un renforcement des partenariats de sécurité en complément de ce sommet inédit entre les Philippines et les États-Unis.
Vous interrogez là-dessus sur les États-Unis aussi, qui rappellent justement les liens de sécurité qui les unissent avec les Philippines et qui menacent de défendre les Philippines en cas d'attaque chinoise. On en est à vraiment ces questions de possibles affrontements militaires ?
En tout cas, les États-Unis ont déclaré très clairement à l'issue de cette réunion, et durant cette réunion, que la mer de Chine du Sud était couverte par le traité de défense mutuelle existant entre Washington et Manille. Donc oui, il y a clairement en tout cas un engagement, des déclarations qui indiquent que les États-Unis seraient prêts à défendre les Philippines en cas d'attaque dans la région. Cette rencontre trilatérale suit une autre rencontre d'importance qui a eu lieu à la fin de l'année dernière entre le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis, qui visait aussi à renforcer le partenariat de sécurité en ces trois pays. Donc on a aujourd'hui, un renforcement des partenariats de sécurité, puis plus largement à terme de soutien militaire américain à ses partenaires et alliés. Et côté chinois, on a des réactions très vives, puisque lorsque les États-Unis, le Japon, l'Australie et les Philippines ont conduit des exercices militaires conjoints le 7 avril, il y a quelques jours, la Chine a très vivement riposté par des patrouilles de combat et, bien sûr, un exercice
Et il y a eu
militaire.
Des manœuvres, en effet, ces derniers jours également autour en mer de Corée. Merci beaucoup, je suis obligé d'interrompre. Merci à Alice Ekman, d'avoir pris le temps de démêler ces enjeux avec nous. Analyste Asie, rappelons-le, à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne. Merci également à Aloïs Guérin qui a rendu cette interview possible. En Italie, ce n'est qu'un projet à ce stade, mais il inquiète l'opposition et les journalistes italiens. Bonjour Bruno Duvic. Bruno Duvic, en direct de Rome pour France Culture. On parle de cette proposition d'un sénateur issu du parti de Giorgia Meloni qui propose dans un amendement un projet de loi sur le droit de la presse des peines, Bruno, qui vont jusqu'à 4 ans de prison pour les auteurs de diffamation.
Qui est responsable de manière répétée et coordonnée de la diffamation d'une personne par voie de presse risque jusqu'à 3 ans de prison, 4 ans et demi s'il le fait en sachant que la personne est innocente. Voilà l'amendement. Alors menacés de prison, les auteurs de diffamation, cela existait dans la loi italienne après la guerre, mais la Cour constitutionnelle, estimant que cela menaçait la liberté de penser, avait jugé la mesure inconstitutionnelle en 2021. Le sénateur prend le chemin inverse avec cet amendement. Alors il est possible qu'à la fin, il ne soit jamais adopté. Forza Italia, il y a le parti de feu Berlusconi qui joue de plus en plus un rôle de modérateur au sein de la majorité, se dit opposé à la mesure. Mais le message est passé. Déjà cette semaine, le gouvernement a fait changer les règles au sein de la RAI sur le temps de parole pour les européennes, se libérant de la place pour la communication institutionnelle. Si en Europe, depuis son élection, Giorgia Meloni envoie des signes de modération, en Italie, par touches successives depuis un an et demi, une partie au moins de sa majorité envoie des signes inverses.
Bruno Duvic à Rome, merci à vous. À Bruxelles, cette fois, le parquet fédéral belge ouvre une enquête sur ses soupçons d'ingérence russe au Parlement européen, des eurodéputés corrompus par Moscou. Ça fait suite à la découverte d'un réseau d'influence avec des sommes d'argent liquide versées à des élus européens via le média de propagande russe Voice of Europe. Et puis Et puis, on va terminer avec la météo, pour avant de retourner au Salon du Livre avec les midis de culture. La météo avec du soleil sur tout l'Hexagone cet après-midi, sous des températures partout supérieures à 20 degrés, sauf peut-être sur le Finistère ou sur la Lorraine. Ça devrait se prolonger dans la journée de demain. Ce journal de midi 30, il était préparé avec Waïba Ibrahim. Le prochain journal de la rédaction de France Culture, ce sera à 18h et il vous sera présenté par Véronique Robert. Merci.